face à Duhamel avec ce soir la directrice de la rédaction de Maria, Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Alain.
Si le premier tour d'élection présidentielle avait lieu avec les mêmes candidats, nous sommes un an après l'élection de 2022, eh bien ce le premier tour donnerait Marine Le Pen qui virerait, comme on dit, largement en tête, 31% devant Emmanuel Macron, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Si l'on s'attarde au podium, disons, on va dire au trio, seulement il n'en reste deux que pour le second tour. Voilà ce que cela donnerait ensuite. Marine Le Pen l'emporterait sur Emmanuel Macron, 55-45. Alors, on se souvient que le président de la République, Alain Duhamel, avait dit qu'il serait un rempart contre le Rassemblement national. Là, il en devient le marchepied du RN.
En tout cas, pour l'instant, la victime, ça c'est bien clair. Je dirais que moi, ce qui m'a frappé dans ce sondage, et d'ailleurs dans les autres sondages, puisqu'il y en a deux autres qui sont publiés en même temps, c'est le fait que, d'un côté, il y a un vrai choc. Quand on lit ces chiffres, ça, on a un choc. Bon, et que, d'un autre côté, c'est un point d'étape. C'est le point d'une première étape de ce second mandat. Alors, sur le point, bon, ce qu'on voit évidemment, c'est que Marine Le Pen est la grande bénéficiaire dans cette affaire. Elle arrive en tête largement au premier tour, elle gagne 8 points, elle gagne au second tour largement avec 5 points. Et ce qui, excusez-moi, mais m'a frappé plus, bien que ce soit pas dans notre sondage, elle a des traits d'image qui étaient inimaginables il y a deux ans. Les Français trouvent qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques, les Français trouvent qu'elle est très proche de leurs préoccupations, ce qui pour des politiques est absolument essentiel. Les Français, bon, il y a que sur la question de savoir si elle a les capacités ou pas les capacités, là, il y a toujours un point d'interrogation. Enfin, globalement, pour elle, c'est très bon. Mais en même temps, je disais, c'est simplement aussi un premier point d'étape. D'abord parce que, ce qui est quand même assez important dans l'histoire, ça ne sera pas Emmanuel Macron dans 4 ans, son adversaire. Ça, c'est la seule certitude absolue qu'on ait. Ça ne peut pas être lui, bon, premièrement. Deuxièmement, parce que ça lui est déjà arrivé, et de commencer ses campagnes présidentielles en tête au départ, déjà deux fois, enfin la deuxième fois en tout cas. Et même, dans certains sondages, de l'emporter. Bon, et puis... quand on regarde les choses, Emmanuel Macron, il ne pourrait pas être, du point de vue de dans l'esprit des Français, dans une pire situation qu'aujourd'hui. Il est vraiment au cœur de l'enfer. Bon, et on peut pas dire que ça soit très excitant du point de vue électoral. Donc, je pense qu'il faut prendre tout ça très au sérieux, que c'est vraiment un choc, et que en même temps, ça n'est qu'une étape, et que on sait bien que, d'ailleurs. Quand c'est Édouard Philippe qui est proposé en face de lui, il fait en tout cas jeu égal avec Marine Le Pen.
Mais, enfin, c'est pas une surprise, non, Natacha?
Alors, premier point, en effet, ça n'est absolument pas une surprise. Certes, là, on a un sondage d'opinion, des chiffres, donc ça permet de s'appuyer. Tout le monde avait bien compris, tout le monde avait bien compris qu'on en était là. Deuxième point, en effet, ça n'est pas une prédiction, on le dira jamais assez. Ça nous donne une analyse de la situation actuelle. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, les Français expriment une colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et on les comprend, le débat que vous aviez à l'instant montre qu'en effet, il y a deux, trois petites choses qui n'ont pas exactement été entendues par Emmanuel Macron. Et en revanche, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous raconte le blocage complet de la situation politique. C'est-à-dire qu'on a tous analysé sur la dernière présidentielle l'amplification de ce mouvement qui consiste à avoir un pays fracturé avec, bon, d'un côté des abstentionnistes, de plus en plus nombreux, qui ont décidé que ça ne les concernait plus. Et parmi ceux qui votent, trois grands blocs, c'est-à-dire en gros le Rassemblement National, la NUPES et Emmanuel Macron, qui avaient vocation au départ en 2017, a rassemblé les libéraux de droite et de gauche, les gagnants du système, et
les sociodémocrates.
Voilà, mais qui sont depuis longtemps des libéraux.
En 2017.
Oui, bien sûr. Les sociodémocrates, c'est-à-dire les sociolibéraux. C'est-à-dire ceux qui ont accepté la mondialisation telle qu'elle est, mais qui veulent des pansements dessus. Bon, bref, enfin tout ça, le problème là-dedans, c'est qu'on voit bien que le piège du macronisme, c'est qu'à force d'étendre son espèce de capacité à attraper ceux qui n'offrent pas d'alternative au système et à repousser les autres dans les franges en disant « vous n'êtes pas dans le camp de la raison, vous n'êtes pas dans le camp de la démocratie », eh bien en fait, il n'a fait que renforcer des gens qui sont aux deux bords, aux deux extrêmes.
Les plus radicaux.
Les plus radicaux. Non. Et il repousse tout le monde dans la radicalité, avec son centre à lui qui s'étiole et dont la base est de plus en plus petite. C'est ça le danger.
Que ce soit un danger, je suis d'accord.
Et donc il s'est trompé, en fait.
Donc que ce soit un danger, je suis d'accord.
Il s'est trompé.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les stratégies d'un côté du bloc de gauche, du bloc de Jean-Luc Mélenchon, et qu'on l'appelle radical comme on veut. Enfin, c'est la gauche radicale. Bon. Et d'un autre côté, le bloc Rassemblement National de Marine Le Pen ont employé des stratégies opposées avec des résultats différents. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu radicalisation, ça a été Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté, il y a eu au moins banalisation, respectabilisation, ça c'est Marine Le Pen. La respectabilisation, elle a marché en termes d'opinion, on verra si c'est durable, mais elle a marché. La radicalisation, ça a visiblement plutôt affaibli le bloc de gauche. Alors je suis tout à fait d'accord avec Natacha, on est toujours dans la tripartition, ce qui est un système... un peu contre nature. Vous savez, on se demandait, au début du second quinquennat, on se demandait s'il y allait avoir ou pas résurrection d'une gauche réformiste et d'une droite libérale. Là, quand on regarde les sondages, c'est vraiment pas le cas. On est toujours dans une situation qui est une situation de blocage, ce qui veut dire que s'il y avait dissolution, on serait dans un blocage encore pire qu'aujourd'hui.
Et pourquoi ça profite plus à Le Pen qu'à Mélenchon ?
Je pense que l'enseignement important, c'est que les Français veulent un changement radical, mais ils ne veulent pas de radicalité et de chaos. C'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire que le bruit et la fureur théorisés par Jean-Luc Mélenchon, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas l'image d'un pays à feu et à sang, ça les inquiète. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de Français qui ont quelque chose à perdre et qui n'ont pas envie de perdre le peu qu'ils ont. Voilà. Et donc, ils vont aller vers ceux qui leur paraîtront à la fois les plus opposés au système, mais les plus raisonnables. Et c'est ça qu'a compris Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle capitalise sur l'angoisse du déclassement de grande part de la population. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans les sondages qui paraissent, c'est quand même qu'elle élargit très fortement sa base, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de son électorat traditionnel chez des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils voteraient Rassemblement National. Alors, ça dépend, bien sûr. Oui. Autre enseignement.
Lesquels ? Les cadres,
les enseignants, les retraités, etc. Oui.
Enfin, vraiment. Elle n'y est pas majoritaire.
Autre enseignement important.
Elle a gagné 8 points, elle est forcée d'avoir progressé. Oui. Ça.
Autre enseignement important qui n'est pas dans le sondage Elab, mais dans celui qui teste les potentiels remplaçants d'Emmanuel Macron pour 2027. Certes, Édouard Philippe est très haut, mais là aussi, Édouard Philippe, c'est Alain Juppé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a ce côté respectable, bien rassurant, raisonnable et compétent, mais une fois qu'on entre dans le dur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de la politique que ces gens-là veulent mener, ça marche souvent moins bien, ou en tout cas, c'est ce qui est arrivé.
Moins bien que quoi ?
À Alain Juppé. Ben, moins bien que ce que ça donne dans les sondages actuellement.
Ah, d'accord. Voilà. Je croyais que c'était moins bien que les politiques que seraient susceptibles de mener soit le bloc de gauche, soit le bloc de droite.
Ah, non. En revanche, ça marche pas non plus comme politique quand elle est menée, on l'a vu avec Alain Juppé. Ça c'est très clair.
La question pour les années à venir, pour le camp qui n'est pas avec Marine Le Pen, c'est qui est le mieux placé pour battre Marine Le Pen ? Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui ?
Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'insiste sur le fait que Marine Le Pen avance masquée, alors que Jean-Luc Mélenchon avance nu. Et qu'apparemment, il vaut mieux avancer masqué que nu. Bon, ensuite, on a un bloc central qui, par nature, comme tous les blocs centraux, est quelque chose de composite, en partie d'artificiel, d'éphémère, et qui est susceptible de prendre des tailles très différentes selon les moments. Comme toujours dans ces circonstances-là. Bon, et là, au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, on est à 4 ans de l'élection présidentielle, mais au jour d'aujourd'hui, le mieux placé dans ce bloc central, pour l'instant, c'est en partie un effet de notoriété, c'est en partie un effet de longévité au pouvoir, c'est Édouard Philippe. Mais dans 3 ans, ça sera peut-être un autre. Je ne m'avance pas du tout. J'enregistre ce que l'État aujourd'hui, il est devant Gérald Darmanin, qui est devant Bruno Le Maire.
On est bien d'accord.
On est encore dans de la politique fiction.
Ça, voilà, ça pour le coup, c'est la course de petits chevaux qui ne dit rien des dynamiques de fond. Et c'est ce qui est important, en fait, c'est de regarder ce que ces sondages peuvent nous aider à voir des dynamiques de fond. Et il me semble que la question du Rassemblement national, c'est justement, vous parliez de sa respectabilité, sa recherche de respectabilité. Oui. En effet, il y a des tas de petits détails qui montrent que le Rassemblement national est en train de basculer dans une stratégie véritable de conquête de pouvoir à travers, justement, l'utilisation de gens qui sont dans la haute fonction publique, à travers des prises de position, de formation de leur cadre, etc. Mais pour autant, dans l'état actuel des choses, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir demain, enfin, ce serait une débandade absolue. Et il y a absolument pas les capacités à administrer un pays, à mener une politique. C'est-à-dire que je pense que tous ces gens-là seraient totalement bouffés par l'administration, bouffés par un système qu'ils sont incapables de contrôler. Mais en revanche, ils répondent à des angoisses, mais ils sont tout aussi composites que les autres. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs pour ça que ça créerait de la déception aussi.
Mais justement, après l'élection présidentielle, vient le temps aussi des législatives. C'est-à-dire qu'il faudra que cette présidente ou qui que ce soit trouve une majorité. Et là, c'est l'autre enseignement du sondage, c'est qu'on retrouve une fracture en trois blocs et ce sera ingouvernable pour la présidence en question.
Je suis d'accord, mais comme vous le rappelez, en tout cas je suis sûr que Natacha se le rappelle aussi, les prédictions en matière de nombre de sièges sont une science assez limitée.
Oui, c'est vrai. Hein,
et à 4 ans, encore plus limitée. Mais ce que sera la taille du bloc central dans 4 ans, aujourd'hui, on ne le sait pas. La prochaine question politique pratique. Alors là, on quitte la politique fiction ou on quitte la politique spectacle pour la politique réelle. C'est de savoir si ou pas, après les décisions du Conseil constitutionnel, la contestation, les manifestations, les grèves, surtout plus les manifestations que les grèves, se poursuivront ou si le conflit s'éteindra, ce qui ne voudra pas dire qu'il n'aura pas laissé de traces, bien entendu, et notamment de ressentiments. Mais est-ce que ça s'arrêtera? Et est-ce qu'à ce moment-là, je dirais à une échéance de 3 mois ou de 5 mois, est-ce que le bloc central, donc Emmanuel Macron et celui ou celle qui sera son Premier ministre à ce moment-là, est-ce qu'il aura la capacité ou non de proposer des objectifs différents? Alors, on sait très bien, ils sont en train de travailler dessus. On sait très bien ce que ça serait, mais est-ce qu'ils en auront la capacité? Est-ce qu'ils susciteront de l'écoute ou est-ce qu'on les croira plus du tout?
La question, me semble-t-il, c'est la question qui est posée par votre titre. Macron, un marchepied pour Le Pen. C'est-à-dire, comment la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017 aboutit à ça, alors qu'Emmanuel Macron, en 2017, disait « Mon objectif, c'est que les gens n'aient plus de raison voter pour les extrêmes. » La réponse, elle est double. Déception par rapport à la promesse, la vague promesse de révolution de 2017, c'est-à-dire il y a eu zéro révolution, on pouvait s'y attendre, mais bon, c'est clairement ça.
Personne ne votait pour Robespierre.
Non, en revanche, il y avait la promesse quand même d'un usage de la société civile, d'une promesse démocratique. Et ça, il l'a totalement trahi. Ouais. Et la séquence qu'on vient de vivre, elle est au cœur de ça.
Est-ce que c'est pas quand même l'exercice, la façon dont il exerce le pouvoir, Emmanuel Macron, qui est sanctionné? Parce que quand même passer en un an d'inverser les choses, en fait, il a fait 58-41, là, ça serait 45-55.
C'est pas seulement ça, c'est aussi le fond.
Bon, il a fait, depuis le début de son second mandat, il a fait un choix qui est « j'ai une réforme symbolique, c'est celle qui donne un sens à ce que je veux faire, ça doit être l'exemple pour d'autres réformes, etc. etc. » Et je serai intransigeant et je serai ferme là-dessus. Bon, évidemment, ça ne plaît pas aux gens, d'autant plus que c'est une réforme qui ne se fait pas à leur avantage. Donc, évidemment, ça crée un gros problème. Mais la question maintenant, la question maintenant, ça n'est pas ce qui s'est passé, plutôt ça n'est plus ce qui s'est passé depuis un an, c'est ce qui est susceptible de se passer dans 6 mois. Et donc la question là est-ce qu'il y a ou non une capacité de rebond qui passe forcément par de nouveaux objectifs mis en avant et forcément aussi par de nouveaux acteurs pour les mettre en œuvre. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Est-ce que ça va se faire ou pas se faire? Mais autrement...
En un mot, le problème, c'est pas la réforme des retraites qui plaît pas aux gens. Le problème, c'est que le revenu des Français par habitant, le PIB par habitant, est en train de dégringoler depuis des années. Non, pas l'inflation. Non, la désindustrialisation, la paupérisation, le recul des services publics, c'est ça que voient les gens. C'est avant l'inflation. Regardez le PIB par habitant de la France par rapport à celui de l'Allemagne ou celui des États-Unis. C'est le déclassement. C'est ça qui angoisse les gens.
On ne peut pas dire que depuis 20 ans, le niveau de vie est régulièrement diminué. Non, là, en ce moment,
il y a un
en ce moment, il diminue.
Il y a un recul du PIB par habitant.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, y a eu une désindustrialisation, pas depuis 2017. Hein, la désindustrialisation, elle a 40 ans.
Les chiffres que nous voyons sont le résultat de ça.
Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est réglée, mais elle est stoppée.
Merci.
C'est déjà un changement par rapport à avant.
Merci Alain Duhamel, Natacha Polony. La une de Marianne, cette fois-ci, promis, c'est la bonne.
Oui, cette fois-ci, c'est la bonne. On est allé interroger des intellectuels, Edgar Morin, Daniel Salnave, Emmanuel Todd, Michel Onfray, pour leur demander justement comment on fait maintenant pour sortir de cette crise. Comment on ressoude la France? Comment on retrouve le chemin d'une démocratie apaisée?
Merci Natacha et Alain.